France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec à nos côtés ce soir un homme qui depuis plus de 40 ans accompagne les femmes pour les aider à procréer, à accoucher, mais également à repousser une grossesse si les conditions de celle-ci ne sont pas réunies. Un homme qui se bat également pour que l'on ne laisse pas à la pornographie l'éducation sexuelle des enfants au risque de favoriser les violences à l'égard des femmes. Le professeur Israël Nizan, chef du département de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg, est avec nous ce soir. Avec lui, nous parlerons de la situation de l'hôpital en général et des maternités en particulier au lendemain d'une nouvelle journée d'action des personnels des hôpitaux. Nous verrons notamment ce que recouvre le label maternité bienveillante que vient de lancer le Collège national des gynécologues obstétriciens dont il est le président. Nous reviendrons aussi avec celui qui a lancé le Forum européen de bioéthique sur le projet de loi adopté en première lecture par l'Assemblée le mois dernier, car pour lui, ce texte qui arrivera au Sénat dans quelques semaines est une avancée, certes, mais il est aussi perfectible. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menahem et réalisée par Marion Lelay, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et les bonnes ondes d'une semaine en France, signée ce soir Tommy Cataneo. Il s'est intéressé à une application baptisée Entourage qui met en relation des habitants qui ont un toit et des sans-abri. À 19h20 au téléphone sonne, peut-on faire confiance à la justice pour prévenir les violences contre les femmes, pour poursuivre et condamner leurs auteurs? On se demandera notamment pourquoi les condamnations pour viol sont en baisse alors que les plaintes sont en hausse depuis 2 ans, depuis MeToo. Pour aborder tous ces sujets, on sera avec une avocate et avec un magistrat. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir, professeur Israël Nizan.
Bonsoir.
Bienvenue sur France Inter. Merci d'être avec nous au lendemain d'une nouvelle journée d'action et de mobilisation des hôpitaux. Vous êtes, je l'ai dit, chef du département de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg. Est-ce que vous comprenez la colère des personnels qui ont manifesté un peu partout? Est-ce que vous dénoncez, vous aussi, un manque de moyens?
Oui, la rentabilité qui a été la clé de sol des 10 dernières années est une catastrophe pour l'hôpital. Et les dégâts qui sont faits ne sont pas des dégâts matériels, ou pas seulement des dégâts matériels, c'est aussi des dégâts sur le sens, sur le courage des équipes, sur la motivation. Et je crains, et je sens, les collègues me le disent, qu'il y a de l'irréversible qui est en train de se faire. Nous avions sûrement le système hospitalier le plus magnifique de France. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La peinture tombe sur les gens, mais surtout, la déréliction est au rendez-vous. La déprime et le burn-out sont dans les services. Et on s'attend de plus en plus, et d'ailleurs ça a commencé, on voit les médecins quitter l'hôpital, y compris les plus capés, pour aller en privé. Et la question que se pose tout l'hôpital, l'hôpital public en France, et je fais partie de ces gens qui ont passé leur vie dans l'hôpital public, et j'étais fier d'être français parce que un SDF qui était sous les ponts pouvait avoir une grève cardiaque. On était le seul pays au monde à avoir ça. Eh bien, je crains que ça ne soit plus le cas, et de moins en moins, pour plein de raisons. Mais ce que je regrette surtout, c'est que même si on venait mettre beaucoup d'argent pour panser les plaies, je crois qu'il y a de l'irréversible qui s'est créé.
Vous pensez que c'est trop tard, carrément?
J'ai peur que, dans certains endroits, le sens, l'esprit, la volonté altruiste qui anime les soignants, qui restent là pendant leur garde, après leur garde, qui comptent pas leur temps, qui sont dans l'empathie complète par rapport aux patients. Et pour ça, il faut être serein et il faut être tranquille. Or, ça a commencé avec la réduction du nombre d'heures de travail qui n'a pas été compensée.
Vous voulez dire le passage aux 35 heures?
Passage aux 35 heures, c'est égal moins 10%. Il y avait 1 million de personnes qui travaillaient dans les hôpitaux. Ça voulait dire qu'il fallait rajouter 100 000 personnes. L'hôpital vend du temps.
Ça fait 20 ans.
Ça fait 20 ans, ça a commencé là. Vous savez, quand vous dites à une infirmière, désormais ce n'est plus 8 heures par jour, mais 7h12, comment voulez-vous qu'elle fasse autrement que de regarder sa montre? Et donc on a commencé là et on a estimé que l'hôpital pourrait assumer avec ses réserves. Et aujourd'hui, l'hôpital est sur les jantes.
Ça veut dire que tout le monde est responsable, droite-gauche confondue, depuis toute cette époque.
Mais les choses se sont acutisées très gravement lorsqu'on s'est mis à considérer l'hôpital comme une entreprise. Et par exemple, la manière de facturer les actes entraîne une propension de la part de l'administration hospitalière à dire aux médecins « faites beaucoup d'actes ». Franchement, est-ce que c'est de ça qu'a besoin la population? Mais si les médecins font pas beaucoup d'actes et ne les cotent pas au mieux, l'hôpital ne fait pas de recettes.
La fameuse T2A.
Fameuse T2A qui pouvait... Aucun pays au monde n'a fait la T2A à 100%. Nous, oui. La T2A, ça va pour les actes chirurgicaux, ça va pour les actes aigus. Ça ne va pas pour quelqu'un qui va en centre de soins palliatifs. Où on lui dit, votre centre, il sera payé pour les 15 premiers jours, et puis si le patient n'est pas mort dans 15 jours, on paye pas. On est dans une situation où on a géré l'hôpital comme une entreprise. D'ailleurs, on a même dit qu'à la tête des hôpitaux, il fallait qu'un seul chef, et on a mis un administratif à la tête. On est quand même un des seuls pays
Mais
au monde.
Qui est responsable? C'est Bercy qui fait la loi? Même pour la santé?
À Bercy, depuis 30 ans, l'alpha et l'oméga, c'est moins il y a de médecins, moins on dépense. Réduisons l'offre. Ça y est, c'est gagné. Et maintenant, il faudra beaucoup de temps. On a collé tous nos étudiants en première année de médecine parce qu'ils avaient un quart de point de moins. Et on importe 25% de nos diplômes.
Ça, c'est le problème de la démographie médicale.
25% des diplômes donnés par l'Ordre des médecins sont donnés à des médecins qui ont fait leurs études à l'étranger. On a tous l'impression qu'on marche sur la tête.
On a une ministre de la Santé qui est médecin, qui a fait sa carrière à l'hôpital également. Vous ne lui faites pas confiance à Agnès Buzyn? Elle est dépassée par la situation?
Je pense qu'on ne peut pas, en quelques mois ou même quelques années, réparer des erreurs de philosophie qui ont prévalu pendant 30 ans. Alors, il me semble qu'elle fait ce qu'elle peut, mais c'est sûrement des enjeux beaucoup plus importants que ceux que peuvent régler un ministre qui se pose à l'hospitalisation française.
Je voudrais vous faire écouter Israël Nizan, un de vos confrères. Il est, lui, neurologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris, il s'appelle François Salacas. Il s'est confié à Véronique Julia. On écoute un extrait de ce qu'il a pu dire à Véronique Julia, puis vous nous direz si vous vous retrouvez dans ses propos.
Là, on est sur un point de non-retour. Il y a le problème du budget, il y a le fait qu'on n'arrive plus à recruter dans un certain nombre d'hôpitaux publics. Donc ça, c'est des choses où il faut réagir extrêmement vite. Moi, j'ai entendu les discours de compassion du président de la République et du Premier ministre. C'est pas de compassion dont les patients, les personnels de l'hôpital public ont besoin. Ils ont besoin d'une réévaluation de leur budget. C'est comme ça qu'on prouvera qu'on les respecte. Sinon, ça montre à quel point les décideurs actuellement méprisent à la fois la souffrance des patients et la souffrance des personnels.
Voilà, vous êtes à peu près d'accord. Hein.
Complètement d'accord. Encore que je rajouterais que je ne pense pas que ce soit qu'une question de budget. On a beaucoup parlé d'attractivité de l'hôpital. Mais sachez que quand je donne un poste à un praticien hospitalier, c'est-à-dire quelqu'un qui a Bac plus 12 et qui a fait tous les concours, qui est parmi les meilleurs, qui est très travailleur, il va être payé 3 500 € par mois. Si il va dans le privé à but non lucratif, on va lui offrir un salaire qui est immédiatement aux alentours de 9 000 €. Et s'il va dans le privé à but lucratif, c'est encore plus. Comment voulez-vous qu'on retienne des gens qu'on retenait avec l'intérêt du travail, avec les équipes, avec la sophistication de ce qu'on pouvait faire dans les hôpitaux, qui disparaît et qui va aller aussi en privé? Donc la question que nous nous posons tous, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu une décision tout en haut de l'État de transférer le curseur de l'hospitalisation publique vers l'hospitalisation privée ou la pratique privée, où il semblerait que les choses soient moins chères.
Petite question quand même aussi sur la sécurité des patients, quand on voit que la situation se dégrade, que les professionnels travaillent à flux tendu, est-ce que ça met en danger la sécurité des gens qui viennent à l'hôpital?
Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'aujourd'hui la sécurité des patientes est aussi bien respectée que par le passé. Et donc, oui, on est arrivé à un moment où, même si dans les équipes tout le monde essaye de faire l'impossible pour éviter des accidents, je peux vous dire que dans le domaine que je connais, la maternité, quand un professeur de gynécologie me dit « je suis seul de garde » pour 5 500 naissances. Ça veut dire que parfois j'ai 3 césariennes à faire en même temps et je suis obligé de choisir parmi les 3 laquelle est la plus urgente. Ça finit toujours par se terminer mal. ce genre de pari. Et donc, je dis la chose suivante, c'est que nous n'assumons plus la sécurité dans le domaine des urgences. La maternité, c'est toujours une urgence. On est 24 heures sur 24 dans le contexte de l'urgence. Et le domaine que je connais bien, et oui, on a 50% des maternités de France qui sont en dessous des cotes d'alerte.
Des maternités qui sont d'ailleurs de moins en moins nombreuses. Il y en avait 1375 en France et on en est à moins de 500 aujourd'hui en plus.
On en est à 489 maternités et la technique qui a été utilisée justement par Bercy a été de dire on ferme les petites maternités mais on répercute pas les personnels sur les maternités qui doivent accepter le surplus. Donc ça ne s'est pas vu. C'était particulièrement efficace et on a perdu dans le domaine que je connais bien 40% de nos personnels en 30 ans.
Question, professeur Nizan, sur le rapport qui avait été publié il y a à peu près un an et demi de ça par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur, je cite, les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Je me souviens qu'à l'époque, vous aviez assez mal pris la chose, en trouvant qu'on fustigeait quelque part la profession. N'empêche que ça posait une vraie question. Est-ce qu'il y a une forme de maltraitance, notamment quand on manque de personnel dans certains actes?
Il est vrai que quand une sage-femme a 4 accouchements à faire en même temps, elle me dit elle-même, on vient prendre nos gardes avec la boule au ventre, parce qu'on sait qu'on ne va plus faire de bon travail, on sait qu'on va être forcément elliptique dans les commentaires, les informations, et on va courir d'une salle à l'autre en priant le ciel de ne pas avoir de pépins. Donc ça, c'est une constante dans toutes les maternités aujourd'hui. Je ne défendrai jamais quelqu'un qui se conduit mal avec une femme. Et même, j'aurais tendance à vouloir faire que s'abattent sur lui ou sur elle les foudres de la justice, de l'ordre des médecins. Ne comptez pas sur moi pour valider ou couvrir une véritable maltraitance. Et je sais bien qu'il y en a dans notre métier, comme dans tous les métiers, et qu'elles ne sont pas excusables parce que nous touchons à l'intimité des femmes. Mais je sais aussi, et c'est pourquoi j'ai mal pris les attaques qui s'adressaient à toute une profession, de manière générale, que 95%, si ce n'est plus, des gens qui assument la grossesse et la maternité dans notre pays, essayent de faire contre mauvaise fortune bon cœur, avec un courage, un dévouement et un enthousiasme également, qu'il ne faut pas briser. Et donc, en tant que président du Collège national des gynécologues obstétriciens, je vois ça, je sais que quelques-uns se conduisent mal, et je suis, si j'avais, j'allais dire une baguette magique, je serais le premier à venir les sanctionner. Je n'ai pas ce pouvoir de police, et je le regrette, mais il n'en reste pas moins que si on dit de toute la profession qu'elle est maltraitante, on va démobiliser le peu de gens qui veulent encore faire ce métier.
N'empêche qu'il y a eu une réflexion qui a été menée suite à ce rapport, et aujourd'hui vous proposez une forme de label, maternité bienveillante, c'est ça en gros si j'ai bien compris?
Je ne souhaitais pas au niveau du collège qu'après MeToo qui a libéré la parole des femmes, et qui nous a fait voir des choses que peut-être on ne voyait pas aussi bien. Et après avoir constaté la grande déréliction de toutes les maternités, on en resta là. Et donc j'ai cherché un moyen qui soit un moyen volontaire de la part des maternités, parce que beaucoup d'entre elles ont fait des efforts considérables pour mettre la bientraitance au centre de leurs préoccupations. Et donc on a fait le point avec un petit groupe éditorial comportant des femmes, des sages-femmes, des médecins, des anesthésistes, des pédiatres, pour savoir quelle était la demande des femmes. Eh bien, cette demande, c'est sur 3 points. Elles veulent de la transparence. Elles veulent de l'autonomie. Et en particulier le fait qu'on ne leur fasse pas d'actes inutiles et que quand on fait un acte, cet acte soit toujours consenti.
Vous pensez aux épisiotomies notamment?
Je pense aux épisiotomies. Et elles veulent pouvoir donner leur avis sur les structures et que ce soit entendu. Eh bien, on a dit, ben voilà le cahier des charges. Et on va accompagner cela, et on est la première spécialité à le faire, d'une application qui donne toutes les informations aux femmes, et c'est l'information de la bibliothèque du collège, c'est-à-dire l'officiel du spectacle. Et on les donne à des moments précis de la grossesse. Par exemple, vous avez parlé d'épisiotomie. 6e mois, madame, est-ce que vous êtes prête à regarder et à lire les informations que nous voulons vous donner pour l'épisiotomie, avec un petit film et des petits détails? Et ensuite de ça, on vient les interroger après, directement, On a fini de demander au docteur ou aux sages-femmes est-ce que vous êtes content de votre travail, ils sont toujours contents. On demande directement aux patientes est-ce que vous voulez bien compléter le petit formulaire 6 juin, 3 jours après l'accouchement et 3 mois après l'accouchement, de manière à ce que ce soit les femmes qui donnent leur avis directement.
Voilà pour ce label. On va évidemment poursuivre avec plein d'autres sujets, professeur Nizan, mais on va passer d'abord à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Fred Milano. À la une cette semaine, le geste de désespoir d'un étudiant, un tremblement de terre dans la vallée du Rhône, et puis un féminicide qui nous laisse sans voix.
Ma mère m'a appelé cette nuit à 23h pour me dire à l'aide. J'ai entendu crier, je suis partie dans ma voiture. J'ai téléphoné à la gendarmerie, qui nous a dit oui, on arrive. J'habite à Bichulaire. La gendarmerie est à Bichulaire. J'ai mis 3 minutes à venir jusqu'à chez ma mère. Eux n'étaient pas là avant 15 voire 30 minutes. J'ai eu le temps de défoncer la porte, d'être menacée par mon beau-père à coups de couteau, d'appeler les pompiers, de voir ma mère mourir par 4 coups de couteau. La gendarmerie n'était toujours pas là.
C'était dimanche dernier dans le Bas-Rhin. Sylvia avait 40 ans. Elle vient rejoindre la liste toujours plus longue des femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Samedi dans Le Parisien, un nouveau témoignage contre Roman Polanski. La photographe Valentine Monnier affirme qu'il l'a violée en 1975, quand elle avait 18 ans. Elle dit s'être décidée à parler alors que le cinéaste, qui nie, fait le parallèle entre l'affaire Dreyfus, au cœur de son dernier film, et les viols dont on l'accuse. À Paris, le film a bien démarré, malgré une avant-première agitée.
J'aime beaucoup l'œuvre de Roman Polanski.
Polanski, s'il a pu violer des enfants, c'est grâce à son pouvoir et à sa place. Vous allez voir son film, vous faites en sorte que ce soit un cinéaste respecté. Et ça, c'est scandaleux.
Polanski, viole !
Samedi dernier, des rassemblements dans plusieurs villes après l'attaque de la mosquée de Bayonne qui a fait 2 blessés. La polémique sur le terme d'islamophobie et sur les signataires de l'appel a pris le dessus au risque d'étouffer le message des manifestants.
À l'époque, nos parents étaient traités d'immigrés d'arabes. Nous qui sommes nés ici, on est traités de musulmans et nos enfants sont traités d'islamistes. Il y en a assez, ça suffit.
Alors, il est écrit « Mon dernier souhait, c'est aussi que mes camarades continuent de lutter pour en finir définitivement avec tout ça. »
Autre rassemblement mardi devant le Crous de Lyon où Anas s'est immolé pour dénoncer la précarité des étudiants. Il triplait sa 2e année de sciences politiques et n'avait plus de bourse, comme en témoigne sa copine.
On considère que c'est normal de galérer, que c'est normal de faire un repas par jour, que c'est normal d'avoir un appart miteux avec des cafards ou de l'humidité. Alors que non, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal et on ne doit pas laisser faire ça.
La terre a tremblé lundi dans la vallée du Rhône. Un séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter qui a fait un blessé grave et de gros dégâts. C'est la commune du Teil en Ardèche qui a le plus souffert.
On a entendu un gros bruit, ça s'est mis à trembler. Sous le coup, on a cru que c'était une explosion de gaz. On ne pensait pas, tremblement de terre, on ne savait pas.
Ma petite fille a eu l'idée de nous faire passer par la fenêtre, Thomas. On est à la rue, on ne sait plus comment faire. À l'entrée de l'hiver, eh ben la Noël s'annonce bien. Eh.
Un séisme qui interpelle dans une région truffée d'installations nucléaires. La centrale de Cruas est toujours à l'arrêt suite à ce séisme. De la cocaïne sur les plages de l'Atlantique, des ballots rejetés par la mer. On en trouve désormais des landes au Finistère. Les promeneurs sont priés d'aller voir ailleurs.
Oui, on a entendu parler de cocaïne.
C'est pour ça que vous êtes là?
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on est là. Il en reste?
Vas-y, Poupou! Vive Moulina!
En réfléchissant bien, je dis, mais j'ai bien fait de ne pas gagner le Tour de France.
Ainsi parlait Raymond Poulidor, qui s'en est allé à l'âge de 83 ans. L'éternel second n'a en effet jamais porté le maillot jaune, mais c'était le chouchou des Français.
Alors les jeunes, ils veulent connaître ce Poulidor. Avant c'était le papa, maintenant c'est le grand-papa. Il dit, tu vois, c'est Poulidor, c'est celui qui a jamais gagné de course, qui a toujours fait deuxième. Et on oublie les 180 courses que j'ai gagnées.
Merci Poupou. Et merci à Fred Milano. Une semaine en France, toujours en compagnie du professeur Israël Nizan, chef du département de gynécologie obstétrique au CHU de Strasbourg. Je ne sais pas s'il y a un sujet qui vous a interpellé.
Oui, je trouve totalement insupportable les féminicides qui surviennent souvent après des appels à l'aide répétés, des plaintes. Et je n'ai pas de solution à Strasbourg. On est en train de faire une... à l'instar de ce qui s'est fait en Seine-Saint-Denis, une maison des femmes, pour que les femmes trouvent un abri. Parce que, figurez-vous que quand en consultation on voit une femme qui a deux yeux au beurre noir ou des traces de cigarette sur ses bras, on lui dit « allez porter plainte ». Et bien entendu, elle va pas y aller. Et donc on est témoins tous de maltraitance gravissime. Et les femmes elles-mêmes nous disent « surtout ne dites rien, ça va être bien pire pour moi ». Et moi qui vous parle, j'ai perdu une patiente en début de ma carrière, parce que j'ai écouté une femme me dire cela et j'ai pas porté plainte, et elle est revenue morte 3 semaines plus tard. Et donc, je trouve que notre société ne fait pas ce qu'il faut. Alors, je sais pas si c'est au niveau de la justice. L'idée des maisons des femmes avec des refuges, c'est une solution. L'idée que les gendarmes viennent prendre la déposition et la plainte dans l'hôpital, c'est une autre solution. Il y a des solutions, mais on s'est pas assez posé la question de ce qu'on pouvait faire.
Eh ben, figurez-vous que c'est le thème du téléphone sonne tout à l'heure à 19h20 sur France Inter. On en débattra notamment sur le plan de la justice. Un petit mot de bioéthique, professeur Nizan, puisque vous avez créé le Forum européen de bioéthique il y a quelques années, quand vous étiez conseiller municipal à Strasbourg. Il se trouve que on a voté une loi en première lecture il y a un mois tout juste. Elle passera devant le Sénat au début de l'année prochaine. Cette loi, elle prévoit pas mal de choses. C'est une avancée, globalement ?
D'abord, la France a acquis une maturité pour le débat tout à fait incroyable. Les états généraux de la bioéthique, la manière dont les choses se sont passées est incroyable. Ensuite, il y a des valeurs qui évoluent dans notre pays à une vitesse tout aussi incroyable. Je ne pensais pas dans mes rêves que ça irait aussi vite. Et donc, l'avancée de cette loi votée le 15 octobre est énorme. Bien sûr, il y a des petites choses à modifier, mais on est dans le détail.
Vous pensez à quoi avant tout ? À l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes
seules ?
Je veux
dire, il y a une chose que j'aurais... Vous savez, on s'interdit en France de regarder sur un embryon plus qu'un gène. Et ça m'est arrivé de remettre dans l'utérus d'une femme un embryon qui n'avait pas de mucoviscidose. On avait regardé ce gène-là, mais on n'avait pas le droit de regarder si par hasard il n'était pas trisomique 21. Ça, on a le droit de le regarder que quand on est sur un fœtus. Et ce qui devait arriver, arriva, c'est que l'embryon qu'on avait remis et qui n'avait pas de mucoviscidose, il avait une trisomie 21 et cette femme a dû faire son 3e avortement. Je trouve que
ça,
là...
Ça, c'est la question du diagnostic préimplantatoire,
diagnostic préimplantatoire.
Et la nouvelle loi ne répond pas à ces questions-là ?
On a dit attention à la dérive eugénique, qui vont trier les embryons. Mais... aucune femme n'a envie de trier les embryons. Les couples ont envie d'avoir des enfants en bonne santé. On est le seul pays d'Europe à s'interdire de faire, dans certains cas, chez certaines femmes, une analyse génétique des embryons, parce qu'on veut être plus propre que propre. Et je crois que la dérive eugénique, qui fait peur à beaucoup de parlementaires, s'évite par les décrets d'application que les médecins respectent. Et donc, je trouve qu'il y a encore des choses à modifier.
Donc ça pourrait être modifié devant le Sénat.
Oui, le Sénat commence ses auditions et on espère bien que le débat entre sénateurs et députés permettra d'améliorer encore cette loi qui est déjà une très grande avancée.
En tout cas, vous avez été entendu sur pas mal de choses, donc sur la PMA pour les couples de femmes, parce que vous aviez fait partie de ceux qui disaient « nous, on aide les femmes à avoir des enfants ». Sur la conservation des ovocytes, vous avez été entendu là aussi.
Sur la conservation des ovocytes, il était totalement injuste que des hommes puissent garder et conserver leurs spermatozoïdes et que les femmes puissent pas en faire de même. Donc ça, c'est une chose qui évolue et il faudra qu'on trouve les moyens de le faire. Mais le fait que la population française et les parlementaires se soient penchés sur la question et la résolvent, c'est un bonheur.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est toujours un peu sous la pression de la réalité qu'on finit par légiférer dans notre pays ?
Non, on légifère. Beaucoup de gens n'aiment pas ça, mais l'opinion publique évolue. Et la loi, c'est une représentation de ce que souhaite le peuple. C'est le peuple qui fait la loi. Et donc, les choses évoluent, les techniques évoluent, les possibilités évoluent. Et on est dans une situation où les parlementaires ont tous compris qu'on ne pouvait pas continuer d'envoyer les femmes à l'étranger lorsqu'elles veulent conserver leurs ovocytes.
Ça veut dire qu'un jour, on débattra aussi de la GPA, même si on s'en défend totalement aujourd'hui ?
Je pense que le pire est de ne pas débattre. Et ça, au Forum européen, on a toujours débattu, y compris des... Et le public est là, qui accepte d'entendre l'opinion d'autrui, et même si c'est pas la même que soi, de l'accepter. Je trouve que ne pas débattre... Alors, je sais pourquoi on ne débat pas. C'est qu'il y a des enjeux politiques et de timing. Mais qu'est-ce qui nous interdit de débattre sur la GPA? Or, on a dit, il y a quelques happy few qui ont dit, on ne débattra pas de la GPA. Ça veut dire quoi? Qu'on estime que les Français ne sont pas assez mûrs pour en débattre?
J'aimerais qu'on parle, professeur Nizan, de l'éducation à la sexualité. Vous, ça fait 25 ans que vous allez dans les collèges et les lycées pour faire de l'information à Strasbourg et puis dans le Bas-Rhin. C'est le programme Info Ado. Vous dites que vous êtes confronté à des élèves qui vous disent des choses absolument invraisemblables parce qu'ils s'informent en regardant des films porno.
Oui, on éduque assez peu nos enfants. Rassurez-vous, la pornographie le fait à notre place. La loi sur la protection des mineurs n'est absolument pas respectée dans notre pays. Si vous distribuez sur le trottoir des images à des adolescents, vous allez en prison. En revanche, si vous le faites par Internet et que vous êtes un milliardaire du net, vous êtes dans l'impunité totale et il vous suffit de demander « Vous avez 18 ans ?»« Oui, non ?»« Oui, c'est bon, on continue. » Donc, je trouve... que notre pays ne respecte pas la loi sur la protection des mineurs. Et mon message, c'est que ça fait du mal à nos enfants de voir des images d'adultes faites par des adultes pour des adultes. Ils n'ont pas l'appareil critique pour se mettre à distance et pour voir que c'est du faux.
Qu'est-ce que vous disent les adolescents que vous rencontrez?
Les adolescents, ils posent des questions totalement que leurs parents n'imaginent pas qu'il soit possible de poser, parce qu'ils préservent leurs parents, ils les protègent. À 11 ans, ils vont pas dire qu'ils ont vu un film porno et que s'ils l'avaient pas regardé, ils auraient été moqués par le reste de la classe. Et ils les regardent sur les smartphones dans la cour de récréation. Donc les
Il me
parents,
paraît qu'ils vous posent des questions sur la zoophilie.
Ben, il y a des, ils voient la zoophilie, ils voient les partouzes, ils voient tout. Et les industriels de la pornographie, plus ils font des films transgressifs, plus ça marche. Et donc, et leur système économique est le suivant. S'il y a 0,01% des personnes qui voient leurs amorces gratuites cliquent pour acheter, c'est un milliard de profits. Donc, ils ont des amorces gratuites. Et moi, je dis la chose suivante. Protégeons nos enfants. Trouvons une solution. Et les pays autour de nous sont tous en train d'y réfléchir. Trouvons une solution pour protéger nos enfants contre ce véritable viol de leur âme.
Parce que c'est vrai que, qu'est-ce que ça favorise, la pornographie, la domination masculine, d'une certaine façon, la violence, tout simplement?
Ça favorise le non-consentement. L'image de la femme est dégradée. La femme, il faut l'humilier, il faut la posséder. Et si elle dit non, en fait, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'on va lui faire tellement de bien qu'elle aurait dû dire oui. Et donc, ça apprend le non-consentement. Je suis un peu surpris.
Il y a des gamins qui vous le disent, ça, oui, quand
sûr.
Vous les voyez?
Il y en a un qui s'est levé et qui m'a dit, monsieur, est-ce que quand une meuf, elle veut pas, est-ce qu'on peut la tenir à deux C'est ça qu'ils voient. On me demande de venir une année plus tôt dans les écoles parce qu'il y a des fellations collectives dans les toilettes. Centre-ville. Donc, pardonnez-moi, mais qui leur a appris ça? Donc, je dis la chose suivante, c'est que 100% des parents sont derrière moi en disant « Nous ne pouvons pas protéger nos enfants. » 100% des parents ont envie de protéger leurs enfants et demandent à l'État de faire quelque chose pour que les enfants ne soient pas là à découvrir la sexualité avec ces images qui polluent l'image qu'ils ont de la femme.
Dans un instant, on va parler de votre parcours, Israël Nizan. Le temps d'écouter Michael Kiwanuka, Hero, c'est un choix musical de Djoubaka.
My hero, my hero now. My hero. My hero now. Please don't shoot me down. I loved you like a father. It's on the music game. I guess they killed another. My hero.
de Michael Kiwanuka.
France Inter, le 18-20. Une semaine en France.
En compagnie du professeur Israël Nizan ce soir, alors on va parler de vous, Israël Nizan, c'est le principe de l'émission aussi. Vous êtes né en 1950 en Israël, d'où votre prénom, j'imagine que ça vient de là.
Mes parents quittaient l'Europe où ils avaient passé une guerre effroyable. Mon père avait passé son temps à faire de la résistance au lieu de faire des études. Et moi je suis né 10 jours après leur arrivée en Israël. Et là-bas c'était la guerre qui les attendait à nouveau. Et au bout de 3 ans, ils n'ont pas tenu, ils sont retournés en France. Ils ont quand même eu un doute quand ils m'ont prénommé, ils m'ont appelé Israël Francis. Ça veut dire qu'ils se posaient des questions sur le fait de pouvoir rester dans ce pays en guerre.
Finalement, donc, vous êtes revenu en Alsace, à Strasbourg. Vous avez vécu un petit peu partout, je crois, à Strasbourg, Colmar, Mulhouse. Vous êtes 5 garçons, vous êtes l'aîné des 5. Et il paraît que votre mère vous a inculqué le féminisme.
Tout à fait.
Comment elle a réussi avec 5 garçons?
Elle avait 6 hommes à la maison. Et c'était une époque très patriarcale. Il y avait un tour de rôle pour la vaisselle. Et gare à ceux qui essayaient de zarzouiller pour ne pas la faire. Mais elle était effectivement très féministe. Et très souvent dans ma carrière, qui a été motivée par ce féminisme-là.
Merci maman.
Très souvent, je pense à elle et à ce qu'elle nous disait de ce que notre société impose aux femmes comme soumission. Et elle ne l'acceptait pas du tout.
La vocation médicale, elle est un petit peu familiale, les Israéliens.
J'ai un papa qui était médecin et donc j'entendais parler de maladies du sang à table.
Un grand-père médecin aussi.
Et un grand-père médecin de campagne. Donc effectivement, il y a un gène de la médecine qui évolue dans notre famille.
Et il paraît même que votre père était un des fondateurs du planning familial.
Tout à fait, il avait eu 5 enfants, donc il avait de bonnes raisons
de se dire qu'il fallait faire quelque chose.
De militer pour la contraception. Et je me souviens, comme enfant, d'avoir vu des réunions discrètes le soir dans le salon avec des médecins qui venaient apprendre chez lui comment on met des capes cervicales, comment on les enduit de spermicides. Il allait chercher en Angleterre les capes cervicales parce que c'était interdit en France. Dans les années 60, la contraception était interdite, et de manière tout à fait secrète, il faisait des soirées de formation pour les médecins généralistes de la ville, pour les informer à comment faire la contraception.
Alors vous aviez toutes les bonnes raisons de vous diriger vers la gynécologie, pourtant c'était pas votre premier choix?
Non, j'étais plutôt parti pour faire de la chirurgie, mais je bénis le ciel 3 fois par jour que la chirurgie était trop dure pour moi, et que le fait de voir mourir des gens qu'on avait opérés et que malgré tout ils mouraient dans de mauvaises conditions, m'avait froissé parce que j'étais pas assez accompagné dans le début de mon internat en chirurgie, et donc j'ai obliqué vers la gynécologie obstétrique où il y avait aussi une part chirurgicale. Et je dois dire que je suis arrivé au moment du début du diagnostic prénatal qui pose des problèmes éthiques énormes. Quels sont les fœtus qu'on laisse vivre et quels sont ceux où on accepte la demande des parents d'interrompre la grossesse. Et puis juste après, il y a eu le début de la procréation médicalement assistée. Et donc ces deux pratiques m'ont obligé à me poser des questions sur le sens, d'où l'intérêt pour la bioéthique. Peut-être que je n'aurais pas eu cet intérêt pour la bioéthique si j'avais continué à réparer des intestins et des œsophages.
En tout cas, vous avez vécu une période incroyable où les choses ont beaucoup évolué. Par exemple, on pourrait parler aussi de l'avortement, puisque vous avez connu quand même, vous, la légalisation. C'était pas le cas avant.
Donc j'ai été nommé interne 3 mois avant la loi sur l'IVG, et j'ai vu 2 jeunes femmes de 15 ans et 16 ans mourir en 24 heures après s'être injectées de l'eau savonneuse dans l'utérus pour avorter. Et le seul péché de ces filles avait été d'être amoureuse d'un garçon. Et j'avais décidé de ne pas rester dans cette discipline parce que je me disais que je ne pouvais pas voir ça toute ma vie. Et j'ai eu la chance énorme que pendant ce semestre-là, la loi passe, qu'en Alsace, elle soit tout de suite appliquée dans les hôpitaux, même s'il y avait des chefs de service qui n'avaient pas envie de s'occuper de ça eux-mêmes. Et j'ai été très intéressé par ce que ça a donné comme changement de la discipline. Parce qu'avant, on voyait des stades d'accouchement où les femmes hurlaient contre ce mari qui leur avait fait un énième enfant qu'elles ne souhaitaient pas. Ça a été un changement en quelques mois. Les grossesses sont passées de grossesses subies à des grossesses désirées incroyables.
Voilà, Et puis, vous avez fait, vous aussi, tout un travail aussi pour la contraception et puis pour faire baisser le nombre d'avortements avec toute cette éducation que vous faites dans les collèges et dont on parlait tout à l'heure. On va passer, parce qu'il est déjà malheureusement 18h53, à notre rubrique positive du vendredi soir, des bonnes ondes, signée Tommy Cattaneo aujourd'hui. Bonsoir Tommy.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Ce soir, vous allez nous démontrer que le téléphone portable n'est pas forcément synonyme d'isolement, le nez collé sur l'écran, sans parler aux autres.
Oui, je vais vous présenter une application qui met en relation les sans-abri et ceux qui les côtoient au quotidien, son nom, Entourage.
En gros, c'est le réseau des gens qui n'en ont pas.
Vous allez me dire, ça y est, encore une appli, maintenant il faut une appli pour faire un sourire à un SDF ou pour discuter avec lui 5 minutes. Alors oui, et non, Entourage, c'est l'idée de Jean-Marc Potvin, 54 ans. En 2012, il bosse dans le domaine des startups et passe tous les jours devant des SDF. Il discute, parle de lui et au bout d'un moment, il leur dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et bien la réponse, c'est que c'est pas forcément d'acheter un sandwich.
Et Tommy, à partir de là, tout s'enchaîne. L'association Entourage est créée en 2014, l'application sort en 2016 et depuis, eh bien elle fait de plus en plus d'adeptes.
Comme Hervé et Charlotte, je les ai rencontrés dans les locaux d'Entourage près de la gare Saint-Lazare à Paris. Lui a 53 ans, il dort dans la rue depuis un peu plus de 2 ans. Et juste à côté, il y a une jeune Parisienne de 26 ans.
Madame Charlotte. Madame Charlotte.
Madame Charlotte, c'est joliment dit.
J'avais besoin d'un sac et cette dame m'a offert un sac. Donc on s'est rencontrés comme ça, via le réseau Entourage.
Avec son smartphone donné par l'association, Hervé a créé ce qu'on appelle une action sur l'appli Entourage. Quand on l'ouvre, chaque action se matérialise par un gros point orange sur une carte. Par exemple, une personne à la rue demande une couverture, une autre des produits d'hygiène. Bref, ça permet de donner ce dont elles ont vraiment besoin.
Il n'y a pas besoin de sandwich. Un savon de Marseille. Avec un savon de Marseille, vous lavez votre linge et vous pouvez vous laver.
Mais attention, Entourage, ce n'est pas un centre de dons, nous dit Hervé. En fait, c'est plus un prétexte à la rencontre entre riverains et SDF.
Je m'intéresse à Hervé, à sa vie, à ce qu'il vit, à ce qu'il a vécu. Et Hervé s'intéresse aussi à moi. C'est un véritable échange au-delà de la remise du don matériel.
C'est pas Amazon, hein. Les gens les rencontrent en vrai. Ça fait ouvrir les yeux aux gens. Ça permet aussi que les gens peuvent rencontrer des gens de la rue et échanger, enlever cette barrière qui est entre les gens de la rue et la société civile. Parce qu'avant qu'on est dans la rue, on reste des êtres humains. Quand vous rencontrez une bonne bouille comme Charlotte, votre journée ne peut être que réussie.
Un bonjour, un sourire, quelques mots, un peu de chaleur humaine, c'est plus important qu'on pourrait le penser, parce que c'est l'ignorance qui tue dans la rue, confie Hervé.
Moi j'ai encore trouvé un monsieur il y a 2 semaines, un dimanche, un chien nous rappelait la SPA. Lui, on l'a laissé crever dans le caniveau. On s'est dit, bon, il est sous. Non, il est mort. Sous et mort, c'est pas tout à fait la même chose. L'année dernière, il y a une dame qui est décédée, qui est de Valmy. Elle s'est assise, 32 ans. Et il y a 300 personnes qui sont passées pratiquement à côté d'elle. Personne ne s'est posé la question. Et le soir, elle était décédée. Un chien, on appelle la SPA. Une dame qui est recroquevillée sur elle-même, on se dit, ben, on va pas l'emmerder. On n'a pas besoin de château en Espagne, hein, c'est trop grand. Peut-être le jardin du château, mais pas un château, hein. On a juste besoin d'un sourire. Sans sourire, on n'est pas bien.
C'est la plus simple des interactions, mais parfois, ces rencontres permettent aussi aux gens de s'en sortir. Elina Dumont est auteure, actrice et vice-présidente du comité de la rue chez Entourage, un comité qui rassemble SDF et anciens SDF. Elle a vécu à la rue pendant plus de 15 ans, avant qu'on lui propose une chambre de bonne.
Qui peut offrir un petit boulot dans une boulangerie? Qui peut offrir des ménages? Ben, ça peut être que le citoyen lambda. Entourage, c'est ça. Ça permet de créer du réseau entre les sans-abri et les riverains. C'est grâce à des riverains qui se disent bah, « Tiens, moi j'ai une chambre de bonne, bon c'est pas grand, mais enfin si ça peut l'aider... » Et ça, un travailleur social, il peut pas le faire. Un travailleur social, il vous dira « Mais Elina, j'ai pas le droit de proposer une chambre de bonne de 10 mètres carrés. » Eh ben moi j'y ai, pourquoi pas? Alors vous préférez qu'il soit dans la rue? Eh ben moi je dis non.
Aujourd'hui Entourage, c'est 70 000 utilisateurs, riverains et SDF à Paris, Lyon, Lille ou encore Rennes. Jean-Marc Potvin, le fondateur de l'association et de l'application, veut développer ce réseau et le densifier. Et puis il a lancé aussi cet été Linked Out, un réseau là encore pour trouver du boulot aux personnes de la rue.
Si vous avez du talent, de l'expérience et que vous êtes prêt à travailler, si vous n'avez pas de réseau, vous ne trouverez pas. Donc en fait on va viraliser le CV de la personne sur les réseaux sociaux. Bah, l'histoire, c'est l'histoire de Kenny que j'ai rencontré il y a 3 ans, qui était dans une situation de galère. Son CV, je l'avais posté en novembre dernier sur mon Facebook. Il a été partagé le soir même 200 fois en disant « Trouvons un job pour Kenny ». Et le 11 janvier, démarrer un CDI.
Et comme Kenny, une dizaine de SDF ont depuis retrouvé un travail en CDD ou en CDI.
Et encore un grand merci à Tommy Cataneo. L'application, c'est donc Entourage. Elle est opérationnelle dans un certain nombre de villes, mais pas encore à Strasbourg. Professeur Nizan, je suis désolée. Un grand merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. C'est allé très très vite. Entre nous, le métier que vous exercez, c'est le plus beau métier du monde, non ?
C'est le plus beau métier du monde, soigner, mettre au monde des bébés et les revoir 40 ans plus tard, c'est fantastique.
C'est un métier à haut potentiel émotionnel, on va dire ça comme ça ?
Énorme, c'est pas possible de faire ce métier sans avoir de temps en temps la larme à l'œil.
Vous êtes au cœur de la vie, on peut le dire, et du coup vous avez vu toutes les évolutions de la société, c'est pas terminé. Je voulais juste vous signaler, parce qu'il y a une dépêche qui est tombée tout à l'heure, et c'est pour vous, hein. Figurez-vous qu'il va y avoir bientôt à Londres un musée du vagin, c'est la suite de MeToo, ça prouve quoi ? Ça prouve que les choses continuent d'évoluer ?
Ça prouve que le corps de la femme n'est plus le mystère dont parlait Freud, et que la société accepte de plus en plus la femme dans toute son acception.
Un grand merci à Israël Nizan d'avoir passé cette heure avec nous. Je cite juste un de vos livres, et si on parlait de sexe à nos ados, c'est chez Odile Jacob et c'est toujours d'actualité. Dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Paour. À 19h20, le téléphone sonne. Question ce soir sur le rôle de la justice en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, que ce soit en matière de prévention, mais aussi de poursuite et de condamnation. Appelez-nous au 01 45 24 7000.